Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Renaud, nous voici déjà à la quatrième émission de cette neuvième saison de l'économie pour tous que nous avons consacrée cette année à la montée de l'inflation en Europe. Et si je ne m'abuse, tu étais au cours de la dernière émission en train de nous expliquer les causes de l'inflation. Et je t'avoue que dans la hiérarchie que tu as faite des différentes causes, tu as introduit différents paragraphes. Et j'ai pas toujours tout suivi au niveau des subdivisions, mais je crois savoir qu'on en était à la deuxième cause.
C'est ça. En fait, il y a trois grandes causes, trois grands déterminants. Qui sont à la source, à l'origine en fait de poussée inflationniste. Et en fait, la semaine dernière, nous en avons vu une, la première, l'inflation par les coûts. Hein, les prix augmentent parce que les entreprises répercutent dans leur prix de vente les coûts de production qu'ils subissent. Et là, nous avons un peu développé les différentes raisons qui pouvaient mener à une hausse des coûts. Donc c'est pour ça qu'on avait plusieurs subdivisions, Eric. C'était qu'on a vu les différents cas qui pouvaient se présenter. Mais aujourd'hui, ça va être plus simple. Nous allons voir les deux autres grandes causes qui, elles, en fait, à peu de choses près, ne vont pas se subdiviser ou quasiment pas.
Très bien. Alors donc, j'annonce aussi à nos auditeurs que suite à l'explication des causes, nous en viendrons à l'explication de la diminution de l'inflation que nous avons connue durant toute la grande période qui a émergé à partir de l'arrivée de l'euro, au cours de laquelle nous avions une inflation extrêmement faible.
Exactement, et puis surtout, nous verrons ensuite les conséquences en fait de l'inflation, de la désinflation ou de la déflation ou de l'hyperinflation, enfin là, des différentes formes possibles de l'inflation, et ça va nous amener à la situation actuelle et de voir en fait si nous devons craindre cette inflation, s'il n'y a que des perdants ou si, pourquoi pas, il ne peut pas y avoir aussi des gagnants à cette situation inflationniste, lesquels, qui, avec quelles conséquences, voilà, ce sera l'objet des deux, trois émissions qui suivront.
Très bien. Bon, écoute, donc on attaque la deuxième cause de l'inflation.
Donc la deuxième grande cause, elle est en fait assez facile à comprendre, elle est assez spontanée. Elle repose en fait sur un mécanisme économique très simple qui est assez universel et que même tous les apprentis économistes qui n'ont pas fait d'études d'économie connaissent peu ou prou. C'est ce qu'on appelle le jeu de l'offre
et de la demande.
De la demande.
Donc voilà, on a moultement parlé dans le cadre de cette émission depuis le temps qu'on l'a fait. C'est un petit peu le principe fondateur de l'économie, non?
C'est ça. Certains diraient même que c'est un peu la tarte à la crème de la science économique. Mais bon, disons que oui, c'est un ingrédient dans la cuisine des économistes qu'on peut agrémenter à peu près toutes les sauces. Voilà. Donc, mais bon, je dis ça de manière ironique, mais non, c'est très important. C'est un concept fondateur absolument essentiel qui permet d'expliquer énormément en fait de oui, phénomènes économiques.
Parce que ça a beau être une tarte à la crème, ça explique quand même beaucoup de mécanismes.
Exactement. Et donc, en l'occurrence, lorsque sur un marché, la demande qui est exprimée par les consommateurs principalement est supérieure à l'offre qui est proposée par les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs qu'il n'y a de produits à vendre, eh bien automatiquement, cela crée une pression à la hausse sur les prix. Donc c'est assez facile à comprendre, hein. Il suffit d'imaginer, Eric, que je cherche à te vendre 4 produits et que je sais que tu as très peu d'argent. Si je veux à tout prix te les vendre, je vais être obligé de les vendre peu cher parce que mon offre est supérieure à la demande. Et dans le cas inverse, je vais pouvoir en profiter pour augmenter mon prix de vente.
Alors est-ce que dans une certaine mesure, cette deuxième cause ne rejoint pas finalement la première, à savoir ça provoque une hausse mécanique des coûts?
Alors oui, tout à fait. La hausse des coûts ne provient pas uniquement du fait que la demande augmente, mais effectivement, le fait que la demande soit supérieure à l'offre sur tout un ensemble de matières premières est l'un des éléments explicateurs de la hausse des coûts qui, elle-même, est explicatrice de l'inflation. Donc effectivement, tu as tout à fait raison. Cette deuxième cause, en fait, on va la retrouver de manière un peu transversale dans l'ensemble des mécanismes qui nous intéressent.
C'est un petit peu comme lorsque tu parlais de la raréfaction d'un produit. Parce que finalement, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'un produit se raréfie, il y a moins d'offres, alors que souvent, la demande reste constante.
Oui, tout à fait. Alors ici, en deuxième raison, je vais donner l'inflation par la demande. En fait, l'idée sous-jacente, c'est pas tant que la demande soit supérieure à l'offre, c'est que la demande est augmentée et que c'est cette augmentation finalement qui est générée le déséquilibre. Lorsqu'il y a raréfaction des matières premières, par exemple suite à des problèmes de récolte, là, on va plutôt considérer que le moteur de la hausse des coûts, c'est pas tant la demande, c'est surtout le problème, il vient du côté de l'offre. L'offre qui est trop rare. D'accord. Alors ça engendre effectivement le fait, tu as raison, que la demande est supérieure à l'offre, mais le problème il est du côté de l'offre. Alors qu'ici, l'idée c'est de dire que le problème, il est du côté de la demande.
D'accord, très bien.
Donc la question qui se pose, c'est pourquoi a-t-on à un moment donné, sur un ensemble de marchés, une augmentation de la demande ? Alors que sur un marché, on ait une augmentation de la demande, ça peut arriver, ce sont des phénomènes de mode, des phénomènes de substitution. Par exemple, je ne sais pas, moi il y a une mode pour le kebab et les gens ne veulent plus acheter de sandwich le midi, tu vas avoir un choc de demande positif sur le marché du kebab, mais la contrepartie, c'est qu'il y a un choc de demande négatif sur le marché du sandwich. Et donc la hausse des prix sur un marché, elle est en fait la contrepartie de la baisse des prix sur l'autre marché, parce que il y a simplement des transferts de demande de marché à l'autre, mais il n'y a pas de hausse globale de la demande. Donc ici, si on parle d'inflation globale, c'est bien parce que il y a un accroissement global de la demande. D'où la question, d'où provient cet accroissement global de la demande ? Eric, est-ce que tu as des suppositions,
on parle de la situation actuelle, hein, c'est ça ?
Alors, il se trouve qu'actuellement, effectivement, il y a eu un choc de demande positif qui est explicatif en partie de l'inflation, mais on peut généraliser. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans l'ensemble de l'économie, la demande augmente ? Voilà, le montant global des achats est supérieur à ce qui se passait auparavant.
Alors, si tu parles du montant global, pour l'instant, j'ai pas d'idée, mais on peut citer un exemple précis. Par exemple, lorsque on a un hiver particulièrement rigoureux, ça peut entraîner une demande supplémentaire d'énergie, de chauffage notamment, ce qui peut avoir des conséquences et des répercussions assez importantes sur l'ensemble du reste de l'économie.
Alors tu as raison Eric, mais là on est plutôt dans le principe de la substitution, parce que en fait si effectivement comme ça va se passer cet hiver, le prix de l'énergie augmente, je vais devoir, alors sauf si j'arrive à faire des économies d'énergie, mais je vais devoir attribuer une plus grande part de mon budget à l'énergie, mais sans doute que cela va se traduire par une diminution de mon budget pour tout un ensemble de loisirs pour lesquels je vais me dire que j'ai plus les moyens.
D'accord.
Et donc il y aura pas d'inflation globale.
Alors il y a une autre grande cause qui m'apparaît évidente, c'est l'augmentation de la population, c'est la démographie.
Alors oui Eric. Oui, je n'y pensais pas. Mais oui, en tout cas, si l'accroissement de la démographie se traduit par une hausse de la production et donc des revenus distribués qui permet effectivement de permettre une demande plus élevée, effectivement, oui, tu as raison. Alors, il se trouve que là, c'est pas le cas. C'est pas ça qui peut expliquer qu'on ait actuellement un choc de demande positif. Alors, pour aller à l'essentiel, il y a principalement deux grandes raisons qui sont en fait assez simples à comprendre l'une et l'autre, mais la deuxième impliquera qu'on fasse une émission spéciale là-dessus, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être dans deux semaines. C'est la question premièrement, la diminution de l'épargne. Il est tout à fait possible que d'une période à l'autre, les agents économiques choisissent de moins épargner. Mmh. C'est par exemple ce qui s'est passé en 2021 par rapport à 2020. Les agents économiques, les Français, ont bien été obligés d'épargner du fait qu'il y a eu 2 mois de confinement et ils ont en quelque sorte rattrapé tout ce qu'ils n'avaient pas dépensé et donc épargné l'année suivante. Donc D'accord. Là, on a un choc de demande positif parce que simplement, les agents économiques font le choix de moins épargner et de plus consommer. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Après, évidemment, il faut comprendre pourquoi ils épargnent moins, mais là, ça nous amène ailleurs. La deuxième grande cause d'un choc de demande positif, c'est la Banque centrale. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle une politique monétaire expansive, et c'est là où on aura besoin de revenir dessus dans une autre émission, parce qu'on ne pourra pas comprendre sinon pourquoi il y a eu une telle désinflation dans les années 2000 et 2010, pourquoi on a eu une aussi faible inflation. Donc la politique monétaire, c'est-à-dire la capacité de la Banque centrale à mettre en place des mesures qui vont avoir un impact sur la masse monétaire globale, sur la quantité de monnaie en circulation, eh bien évidemment, va entraîner des chocs de demande positifs ou négatifs en fonction du type de politique et de mesures mises en avant.
D'accord, très bien. Bon, c'est parfaitement clair.
Donc ça, c'est l'inflation par la demande. Ensuite, il nous reste le dernier élément, et là, ce dernier élément, il est aussi assez intuitif, c'est la question de l'organisation des marchés, et plus particulièrement du degré de concurrence existant sur chaque marché. En effet, on le sait, c'est empiriquement vérifié, lorsqu'on se situe face à des marchés qui sont monopolistiques, où on a des grosses entreprises qui ont tendance à dominer par leur poids, leur volume de production le marché, eh bien ces entreprises sont en position de force pour pouvoir imposer aux consommateurs des prix plus élevés. Mmh. À l'inverse, lorsqu'on a un degré de concurrence qui est plus fort, eh bien là aussi, toutes choses égales par ailleurs, cela se traduit en moyenne, parce qu'il peut y avoir des exceptions, mais en moyenne, par une tendance à la baisse sur les prix, tout simplement parce que les entreprises ne peuvent pas se permettre, face à leurs concurrents, de proposer des prix plus élevés.
Bon, bah, ça aussi, c'est parfaitement clair. Donc, est-ce qu'on a épuisé, avec cette dernière explication, l'ensemble des causes qui provoquent l'inflation ?
Oui, et je voulais juste apporter une toute petite précision sur ce que je viens de dire. Tu m'as demandé en début d'émission comment on pouvait expliquer le fait que l'inflation ait été aussi faible en Europe au début des années 2000, jusqu'en gros à la fin des années 2010. Hein. Sur l'ensemble des 20 ans, on a un taux d'inflation moyen qui n'excède pas 1% par an. Mmh. Eh bien, une des causes, c'est ce qu'on appelle la désinflation importée. C'est le fait que sous l'égide de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, nous avons progressivement de plus en plus ouvert nos frontières à la concurrence, et en particulier ouvert nos frontières à la concurrence de pays émergents, tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil. Mmh. Et cela a généré une tendance à la baisse des prix sur tout un ensemble de produits importés qui se substituaient aux produits nationaux qui coûtaient plus cher. Et donc cela a pu expliquer en partie pourquoi les prix ont si peu augmenté durant cette période.
D'accord, c'est une sorte de mise en concurrence généralisée à une plus grande échelle, c'est-à-dire une échelle internationale. C'est le fameux plombier polonais qui était supposé mettre en péril le plombier français par une offre très inférieure à la sienne, le dumping social, quoi.
C'est ça, et d'ailleurs, c'est une des conséquences possibles parfois des politiques de lutte contre l'inflation, c'est qu'il y a des effets secondaires. Et si pour lutter contre l'inflation, on ouvre grand les frontières, il n'est pas impossible que pour un certain nombre de travailleurs, eh bien effectivement, cela entraîne une concurrence qui les amène, eux, soit à perdre leur emploi, soit à être obligés d'accepter des conditions de travail plus difficiles. Alors, c'est peut-être pas le cas pour l'ensemble des travailleurs, puisque la plupart des travaux des économistes semblent montrer plutôt l'aspect positif de l'ouverture des frontières sur l'ensemble du pouvoir d'achat. Mais il n'empêche que pour certaines catégories de travailleurs, cela a pu se traduire par une détérioration soit de leur rémunération, soit de leurs conditions de travail.
Et est-ce que ça, on l'a constaté depuis l'ouverture des frontières de l'Europe à la concurrence et à cette désinflation apportée, comme tu l'appelles, est-ce qu'on a assisté à ça, c'est-à-dire peut-être plus de destruction d'emplois, plus de renouvellement dans les types d'emplois proposés, ou une plus grande remise en cause du fonctionnement des entreprises de par cette concurrence ?
Alors, plus de destruction d'emplois, non, en tout cas pas empiriquement, puisque le nombre d'emplois ne cesse d'augmenter, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais oui, malgré la mondialisation, malgré le progrès technique, on a toujours plus d'emplois. Mais par contre, sur la question des conditions de travail, sur la condition de la rémunération relative des gens non qualifiés, et sur la plus grande difficulté à s'insérer sur le marché du travail pour les gens non qualifiés, oui, évidemment, ça a eu des conséquences qui expliquent qu'en France ou en Europe, nous ayons un chômage structurel important. Le chômage structurel, c'est l'ensemble des personnes qui n'ont plus les qualifications requises sur le marché du travail ou qui ne sont plus demandées. Ils ne sont plus demandés, entre autres, parce que le niveau de salaire qui existe en France est considéré par certaines entreprises comme trop élevé relativement aux faibles qualifications des personnes en question par rapport à ce que les entreprises pourraient avoir dans certains pays étrangers où, évidemment, les modèles sociaux ne sont pas du tout les mêmes que chez nous.
Alors, c'est tout à fait intéressant ce que tu nous expliques là, Renaud, parce que justement, depuis cette époque, ça a pu avoir de nombreuses conséquences. Je pense notamment au fait que dans l'éducation nationale, par exemple, on lutte beaucoup maintenant contre l'absence de qualification, la déscolarisation. Et donc, on essaye de plus en plus de faire en sorte que chacun de nos enfants puisse sortir de l'école avec une qualification. J'imagine que c'est dans ce contexte de forte concurrence internationale.
Exactement, exactement. Lorsque vous vivez en autarcie, vous êtes bien obligé d'affecter tous les emplois aux personnes qui sont là. Et forcément, vous avez des emplois de différents types de qualifications. Lorsque vous vous ouvrez au commerce international, il s'ensuit un mécanisme de spécialisation, c'est-à-dire que certains pays vont pouvoir se spécialiser là où ils ont ce que l'on appelle un avantage comparatif, là où ils sont les plus performants. Et clairement, nous, en France, notre spécificité, ce n'est pas le travail non qualifié. Donc, tout un ensemble d'activités qui correspondent à du travail non qualifié, effectivement, tendent à quitter notre territoire. Alors, pour le pire, pour les personnes concernées, pour le meilleur, parce que c'est aussi la contrepartie du fait qu'on a un accroissement généralisé des qualifications des emplois, qui sont quand même un peu plus intéressants a priori à réaliser que les emplois non qualifiés. Mais pour les personnes non qualifiées, ça implique une difficulté à entrer sur le marché du travail qui est de plus en plus importante. C'est vrai. D'accord. Ça a été l'une des contreparties de la lutte contre l'inflation.
D'accord.
Mais pour terminer, Eric, parce que je crois que nous arrivons progressivement à la fin de l'émission,
absolument.
Il va falloir, et moi je te propose qu'on le fasse la semaine prochaine, qu'on revienne quand même, parce que c'est très important, et en particulier si on veut comprendre le regain inflationniste en ce moment, de comprendre comment la Banque centrale, par les politiques qu'elle mène, a un impact si important sur le niveau global des prix, et comment cet impact a pu expliquer la désinflation des années 2000 et 2010, et comment cet impact peut en partie expliquer, indépendamment de la guerre en Ukraine, le regain d'inflation que nous connaissons actuellement.
Très bien.
Et ensuite, nous verrons les conséquences de l'inflation.
Parfait. Écoute, merci Renaud pour ces explications parfaitement limpides, et je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Eric. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.